Bretagne 5. Écoutez la Bretagne.
Agrégé d'histoire, doctoresse lettres, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique, Henri Michel, 1907-1986, fut secrétaire général du comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale, directeur de la revue d'histoire de la Seconde Guerre mondiale et auteur de nombreux ouvrages consacrés à cette période. Dans Vichy, années 40, publié chez Robert Laffont en 1966, Henri Michel, s'appuyant sur des sources et des documents d'une fiabilité incontestable, porte un regard d'historien sur la réalité du régime de Vichy. Préface, extrait. Voilà 26 ans que se sont déroulés les événements qui font le sujet de ce livre. Les hommes de 40 ans en avaient 14 à l'époque. Aucun de mes fils, aucun des étudiants auxquels il m'est arrivé de livrer quelques bribes des pages qui vont suivre, n'était encore né. C'est dire que la majorité des Françaises et des Français ne connaissent souvent la tragédie que la France a vécue entre 1940 et 1944 que par les relations partielles de leurs aînés. Au centre de toute étude sur le régime de Vichy se situe le drame surprenant et pitoyable du maréchal Pétain. Héros de Verdun, le plus illustre des Français entre les deux guerres, unanimement adulé en 1940, il a été en 1945 condamné à mort pour haute trahison. Ceux qui, ayant suivi Pétain, ont été condamnés avec lui ou à cause de lui, ne cessent de s'employer à le réhabiliter pour réhabiliter eux-mêmes, sa condamnation ayant été totale, son apologie ne pouvait pas ne pas l'être également. De là, une littérature innombrable conçue essentiellement pour sensibiliser l'opinion. De là aussi, des polémiques encore vives et des plaies toujours saignantes. Pour comprendre la genèse et la retracer, il importait d'abord de remonter au commencement. Ce livre traite donc des 6 premiers mois de Vichy. Dans la deuxième moitié de l'année 1940, le nouveau régime sorti d'un désastre national sans précédent, a acquis sa stabilité, s'est doté de son enveloppe juridique, a installé ses partisans dans les rouages de l'État. Surtout, dès ce moment, il a déterminé ses options politiques fondamentales qui orienteront désormais son comportement. À l'origine se situe la cessation des combats et l'armistice de juin 1940. À leur sujet, deux questions capitales se posent. Était-il inévitable, peut-être même souhaitable, du moins pour les dirigeants du régime de Vichy, dont les opinions seules nous intéressent. Dans quel esprit et pour quel but ont-ils été décidés? Autrement dit, l'armistice était-il à ce moment considéré comme une pause entre deux combats ou comme la première démarche pour une paix durable dans l'acceptation de la défaite? Il est clair que la réponse à ces questions fournira une vive lumière sur les motivations de la politique de Vichy. Mais Vichy pouvait-il choisir sa politique? Dans quelle mesure la convention d'armistice lui laissait-elle des moyens d'action et un minimum de liberté pour s'en servir? C'est toute la situation créée par la défaite qu'il convient pour répondre d'étudier. C'est aussi la façon dont les Allemands ont exploité leur victoire en appliquant ou en violant à leur profit le texte juridique qui la sanctionnait. Cependant, il est 3 directions dans lesquelles le régime de Vichy s'est engagé dès sa création et dont il importe de déterminer si elles étaient inscrites dans la convention d'armistice. Il a d'abord rompu toute relation avec l'Angleterre, puis sa propagande l'a traité comme un ennemi. Alors, certes, un armistice avec l'Allemagne, conçu et conclu sans l'accord de l'allié, ne pouvait pas ne pas instituer une coupure de fait avec celui-ci et ne pas provoquer son ressentiment. La deuxième option de Vichy, la révolution nationale, est-elle, et dans quelle mesure, directement liée à la conclusion de l'armistice? Il n'est pas surprenant que la Troisième République, pas plus que le Second Empire, n'ait survécu au désastre de ses armées et que la recherche des causes de la défaite ait conduit à la conviction de la nécessité d'un changement profond du régime et des mœurs politiques de la France d'avant-guerre. Tel fut le cheminement de la pensée, de la France libre et de la résistance clandestine. Mais tout en élaborant leur projet de réforme, elles laissaient le soin au peuple français de décider lui-même librement de leur mise en application après la guerre. Le régime de Vichy, au contraire, porté au pouvoir par la défaite et si maintenant dans l'occupation du pays, au lieu de se borner à administrer au mieux les affaires publiques dans un climat de concorde et d'union qui regroupa la France autour de lui, s'est servi de la défaite pour imposer aux Français de profondes réformes politiques et économiques pour lesquelles il ne leur avait pas demandé leur avis. La révolution dite « nationale » n'introduisait pas seulement en France un régime, modérément mais pour de nombreux Français scandaleusement, calqué sur les fascismes. Elle se traduisait par des mesures discriminatoires contre des catégories de Français. Elle expropriait les uns, chassait les autres de leurs fonctions, internait, livrait aux Allemands, déportait. Ainsi, il y eut en France, entre 1940 et 1944, deux groupes de parias exposés à l'action répressive du pouvoir, ceux qui affichaient leur hostilité à l'occupant et ceux qui n'approuvaient pas la révolution nationale. Les deux étaient également répréhensibles de ne pas penser Pétain, selon le jargon de l'époque. La révolution nationale était en germe dans le premier appel de Pétain dès le 17 juin, avant l'abandon du combat. Elle prit forme dans les 6 mois qui suivirent. Quelles en furent les raisons? La véritable nature, les résultats? Dans quelle mesure était-elle une conséquence de la défaite? La révolution nationale était-elle liée à la troisième option de Vichy, capitale, la collaboration loyale avec le vainqueur, décidée dès l'automne de 1940? Le seul concept de collaboration indignait beaucoup de Français. Choquant en 1940, il était devenu infamant à la fin de 1944. C'est que, à ce moment, l'Allemagne est vaincue, ou va l'être. Dans toute la France, des charniers dénoncent la brutalité des nazis. Les camps de concentration que l'opinion découvre, la frappe de stupeur. La collaboration apparaît à la fois une erreur et un crime, dont l'addition ne peut s'appeler que trahison. Une première question vient à l'esprit. Le gouvernement de Vichy pouvait-il pratiquer une autre politique? L'a-t-il tenté? Y a-t-il seulement pensé? En juin 1940, la cessation des combats et la signature de l'armistice paraissaient au maréchal Pétain et au ministre qui le suivait un moindre mal, voire même une issue honorable. Pourquoi, alors, ont-ils voulu dépasser la convention d'armistice quelques semaines après l'avoir signée? Ont-ils agi ainsi par conviction de la victoire allemande ou par sympathie idéologique avec le vainqueur? Y ont-ils été contraints par un vainqueur exigeant ou s'y sont-ils lancés de leur propre gré? Dans tous les cas, qu'attendaient-ils de la politique de collaboration? La concevaient-ils administrative, économique ou militaire? C'est à ces questions, entre autres, que je me suis efforcé de trouver une réponse. Qu'on veuille bien me croire si j'affirme que je l'ai fait sans prévention ni passion. Henri Michel.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.